Ruth, chapitre 2. Et Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Je te prie, j'irai au champ, et je glanerai parmi les épis, à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle dit, « Va, ma fille. » Et elle s'en alla et entra et glana dans un champ après les moissonneurs. Et il se rencontra fortuitement que c'était la portion de champ de Boaz qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit aux moissonneurs, « L'Éternel soit avec vous. » Et ils lui dirent, « L'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. » Et elle nous a dit, « Permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes après les moissonneurs. » Et elle est venue et est demeurée depuis le matin jusqu'à cette heure. Ce qu'elle a été assise dans la maison est peu de chose. » Et Boaz dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici auprès de mes jeunes filles. Aie les yeux sur le champ qu'on moissonne, et va après elle. N'ai-je pas commandé au jeune homme de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. » Et elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses, et je suis une étrangère ?» Et Boaz répondit et lui dit, « Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari m'a été rapporté. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre, et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. » Et elle dit, « Mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas comme une de tes servantes. » Et au temps du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi ici et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Et elle s'assit à côté des moissonneurs et lui tendit du grain rôti. Et elle mangea et fut rassasiée et en laissa du reste. Et elle se leva pour glaner. Et Boaz commanda à ses jeunes hommes, disant, « Qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproche, et vous tirerez aussi pour elle quelques épis des poignets, et vous les laisserez, et elle les glanera, et vous ne l'en reprendrez pas. » Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha d'orge. Et elle le chargea sur elle, et vint à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Et elle sortit ce qu'elle avait laissé de reste, après avoir été rassasiée, et le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et dit, « Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boaz. » Et Naomi dit à sa belle-fille, « Béni soit-il de l'Éternel, qui n'a pas discontinué sa bonté envers les vivants et envers les morts. » Et Naomi lui dit, « L'homme nous est proche parent, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Et Ruth, la Moabite, dit, même il m'a dit, tiens-toi près de mes jeunes hommes jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson que j'ai. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes filles et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Et elle se tint auprès des jeunes filles de Boaz pour glaner jusqu'à ce que la moisson des orges et la moisson des froments fût achevée. Et elle habitait avec sa belle-mère.
Juste pour résumer un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. Dernière fois, nous avons lu dans le premier chapitre à partir du verset 15 jusqu'au deuxième chapitre, un peu le début. Nous avons vu la dernière fois le chemin de trois femmes que Dieu attire à lui. Premièrement, Naomi, qui nous parle d'une âme qui suit un chemin affligeant, qui retourne vers un Dieu connu. Deuxièmement, Ruth, qui nous parle d'une âme dont le chemin est un chemin de foi naissante, initiale. Troisièmement, Orpa, le chemin d'une âme avec un profond attachement à Naomi, mais qui n'a pas la foi, et qui retourne finalement en Moab. L'exemple de Naomi nous montre une âme éloignée de son peuple et de Dieu. Elle est préparée à recevoir les bénédictions de l'Éternel par des souffrances difficiles. Elle a perdu ses soutiens humains, son mari, ses fils. Cela afflige son cœur. Elle n'a plus que la bonne nouvelle que l'Éternel a visité son peuple pour leur donner du pain. Le petit mot au verset 6, « Car elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. » Cela montre qu'elle se met en route à cause de cela, à cause de l'Éternel qui a visité son peuple pour leur donner du pain. Elle va vers Bethléem. C'est une âme qui n'a pas la pleine conscience de la grâce de Dieu. Nous le voyons quand elle conseille aux deux Moabites, Ruth et Orpa, des étrangères, de retourner à leur pays. Dieu ne voulait-il pas donner la grâce aux trois? Pour Ruth, les choses sont différentes. Elle ne connaissait pas l'Éternel jusque-là, sinon par la bouche de Naomi. C'est une foi naissante, qui ne connaît que peu de choses de Dieu, mais qui est attirée par ce qui attire Naomi. Elle peut déjà à ce stade dire « Ton Dieu sera mon Dieu », ce qui montre le début d'une relation avec l'Éternel, et ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, ce qui montre qu'elle connaît un Dieu vivant, qui peut agir, ce que les idoles qu'elle connaissait jusque-là ne peuvent pas faire. Elle s'attache à Naomi et accepte le sort de l'étrangère, mais Orpa retourne à son peuple et ses dieux. Elles arrivent ensuite toutes deux à Bethléem. Toute la ville s'est émue à son sujet. Ils se mettent en peine pour Naomi. Elle leur répond, dans l'humiliation sincère, sans rejeter la faute sur son mari. Elle est soumise à la discipline. Elle est dans l'affliction. Mais Dieu a déjà préparé la bénédiction et la restauration. La moisson des orges, à la fin du chapitre. Nous avons juste dit un mot du chapitre 2, du début du chapitre 2. Nous avons dit que Boaz est un type de Christ, une image de Christ. La parole veut que, comme Ruth, nos yeux se fixent sur lui, nos cœurs s'attachent à lui, recherchant le lieu où il est. Cet homme était un ami du mari de Naomi, faisant partie de sa famille et puissant. Cela montre qu'il peut et il veut certainement relever le nom de cette famille. Et dans la suite du récit, nous allons voir maintenant Ruth allant au champ de Boaz, un lieu où Boaz est respecté, où l'ordre est maintenu, chacun est à sa place, et la grâce coule à flot pour ceux qui viennent y trouver la bénédiction.
Si nous pouvons donner un titre au premier chapitre de Ruth, nous pourrions dire c'est la grâce qui ramène et c'est la grâce qui sauve. La grâce qui travaille dans le cœur et la conscience de Naomi, qui va retourner à Bethléem du lieu d'où elle était partie avec son mari et avec ses deux fils. Et nous voyons que c'est la grâce qui restaure une âme, c'est la grâce qui ramène cette âme à son point de départ. Dans Ruth, nous voyons plutôt la grâce qui sauve une âme. Et cette expression remarquable du chapitre 2, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses et je suis une étrangère. » Nous pouvons nous adresser à Dieu, nous pouvons nous adresser au Seigneur de la même manière. Pourquoi avons-nous trouvé grâce aux yeux de Dieu? Pourquoi avons-nous trouvé grâce aux yeux du Seigneur? Alors que nous étions des étrangers aux bénédictions, nous ne faisions pas partie du peuple d'Israël, mais nous faisions partie des nations. Le chapitre 2, si nous avons un titre à donner, c'est la grâce qui nourrit. Et en lisant ce chapitre, il y a un instant, il y a un mot qui revient régulièrement, c'est glaner. Glaner, c'est pour se nourrir. Pour nourrir Ruth, pour nourrir sa belle-mère, Naomi. Et nous devons prendre conscience que si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous ramène, si nous nous éloignons, eh bien, c'est toujours la grâce de Dieu qui agit et qui nous nourrit, cette grâce infinie. Le but du chapitre 2, c'est au fond de présenter Ruth à Boaz. Et dès le premier verset, nous voyons que le Saint-Esprit place devant nous ce grand sujet. C'est Boaz qui est présenté, et nous avons dit que c'était un type de Christ. Et le nom de Boaz est cité une vingtaine de fois, 20 ou 21, dans le livre de Ruth. C'est-à-dire, au fond, Dieu ne veut pas que nous nous égarions, mais il désire diriger nos yeux vers le divin Boaz. Il veut que nos regards soient toujours fixés sur la personne du Seigneur Jésus. Le premier donc grand sujet du chapitre 2, c'est Ruth, l'étrangère qui est dans les champs de Boaz, le parent de Naomi pendant la moisson. Dans la loi, les propriétaires terriens étaient invités à ne pas oublier les besoins des pauvres. Et si Dieu accordait des bienfaits par les récoltes, eh bien, on devait permettre aux pauvres, à des pauvres, de participer aux bénédictions qui étaient accordées par Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, selon ce qui est écrit dans le Lévitique, Lévitique chapitre 23. Et nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, nous sommes invités aussi à donner. Et si nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, nous voyons une correspondance évidente entre cet enseignement que nous trouvons dans Ruth à propos des pauvres et au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Il nous est dit, offrons donc, verset 15 du chapitre 13, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, le nom de Jésus-Christ. Et il nous est ajouté, mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Si la loi, du Sinaï, la loi de Moïse, disait aux propriétaires terriens qui étaient bénis par des récoltes abondantes, eh bien, ils ne devaient pas oublier les besoins des pauvres, mais notre culte du dimanche matin serait incomplet si cela manquait le fait de participer à la bienfaisance. Au fond, Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, désire que se développe en nous un esprit de miséricorde vis-à-vis de son peuple, de ne pas oublier les pauvres. Nous voyons ensuite dans ce chapitre 2 que ce n'est pas Naomi, l'aînée, qui va prendre l'initiative d'aller glaner Et elle n'en donne même pas le conseil à Ruth. Mais on voit que Ruth se porte volontaire, bien qu'étrangère. Naomi avait de riches parents par son mari, qui n'avait pas fui le peuple, le Bethléem, et à cause de la famine, hein, et sans doute qui avait prospéré pendant ce temps-là, mais nous voyons qu'elle ne les sollicite pas. Et donc nous voyons Ruth qui s'en va humblement le matin tôt pour aller glaner dans les champs. Mais si elle part tôt, nous ne pouvons pas douter qu'elle y part avec une ferme confiance dans le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel elle était venue s'abriter. Et nous voyons qu'elle va tomber, fortuitement, par hasard, mais nous ne doutons pas que les circonstances avaient été conduites et dirigées par Dieu. Eh bien, elle va tomber sur un lot que possédait Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et nous voyons les soins de Dieu, les soins de l'Éternel vis-à-vis de cette jeune Moabite qui est venue en Israël, qui a tout quitté, qui a quitté son pays et qui a désiré venir s'abriter sous les ailes du Dieu d'Israël.
Ruth, voilà la foi de Ruth. Et elle rencontre, avant d'aller glaner dans le champ, elle pouvait dire, peut-être je rencontrerai la grâce, je trouverai la grâce, elle cherchait la grâce. Et au verset 2, au verset 10, elle dira, elle rencontre Boaz, et elle dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Je suis une étrangère. Elle était une étrangère. Et au verset 13, alors elle a trouvé cette grâce auprès de son Seigneur. Boaz était son Seigneur. Il était, comme l'avons dit, était un homme puissant, un homme riche. Et Boaz était donc le type de Christ qu'elle rencontre. Et nous voyons dans ce chapitre 2 qu'elle a la conversation avec sa belle-mère Naomi. Ensuite, elle rencontre Boaz, elle a la conversation avec Boaz. Et nous voyons que Ruth avait cette foi qui honore Dieu. Et elle cherchait cette grâce qu'elle a trouvée auprès de Boaz. Boaz, donc, ici, c'est déjà au temple de Salomon, un roi 7, verset 21. Nous voyons que il y avait deux colonnes, une colonne de droite où il y avait Jacquin, et la colonne de gauche où c'était Boaz. Et en lui est la force. Et donc Ruth a trouvé cette force en son Seigneur, en celui qu'il, plus tard, se mariera avec lui. Donc Boaz, type du Seigneur Jésus.
Boaz était un homme puissant et riche. Dans ce temps-là, les richesses personnelles étaient une des bénédictions que Dieu donnait aux Israélites pieux. Et nous ne doutons pas que ce caractère, et nous allons peut-être à examiner la chose correspondait bien à celui de Boaz. Boaz est un homme pieux et qui était riche. Et ce que nous voyons, c'est que son caractère moral et spirituel avait été renforcé par les richesses. Il était courtois, il était prévenant vis-à-vis de Ruth, il était généreux, et ses paroles et ses actes témoignaient d'une foi en Dieu profonde et profondément enracinée. Et nous pouvons comprendre que chez cet homme, c'est là qu'était la force, c'était sa piété vis-à-vis de Dieu. Et les richesses, dans ce cas-là, ont permis à Boaz de renforcer son caractère moral et spirituel. En ce qui nous concerne, il ne faut pas oublier que les richesses peuvent nous gâter. Nous avons l'exemple d'un homme dont le caractère spirituel donc a été renforcé par les richesses. Mais la parole de Dieu nous avertit aussi que les richesses peuvent nous gâter. Et nous avons un exemple heureux en Boaz sur un homme riche, puissant et pieux. La parole de Dieu nous parle de la vanité des richesses de ce monde. Et si quelqu'un est riche, à ce moment-là, on peut échafauder beaucoup de plans d'avenir où Dieu est absent. Et nous voyons que chez cet homme, Boaz, Dieu est présent. Nous devons prendre garde aux richesses, à la vanité des richesses de ce monde, de peur que, à cause de ces richesses, nous oublions Dieu. Dans cette rencontre entre Boaz et Ruth, nous voyons que Boaz s'intéresse personnellement au bien-être de tous les travailleurs, mais tout particulièrement, il s'intéresse à cette nouvelle venue dans ses champs. Et nous voyons qu'il s'enquiert d'elle auprès du serviteur qui surveille donc les moissonneurs. Quelle rencontre entre Boaz et Ruth. Et est-ce que nous nous souvenons de notre rencontre avec Jésus-Christ la première fois? Est-ce que nous nous souvenons de cette rencontre personnelle lorsque nous avons pris conscience de ce que nous étions, des pécheurs perdus, et le bonheur de connaître le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel? Et nous voyons cette rencontre entre Boaz qui adresse à Ruth plutôt des paroles amicales, des paroles pleines d'encouragement et de considération. Il ne lui parle pas comme un maître, mais il lui parle plutôt comme un homme âgé. Et il lui donne des conseils pleins de bienveillance et amicaux. Si nous nous souvenons de notre première rencontre avec Jésus-Christ, n'est-ce pas la grâce qui nous a touchés? Comment il nous a abordés? Comment il nous a parlé au cœur avant de nous dire la vérité de ce que nous étions? La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. C'est toujours la grâce qui attire. Mais après, il y a besoin que la vérité pénètre aussi nos cœurs et nos consciences pour que nous réalisions que nous sommes perdus sans lui. Encore, on a évoqué dans le résumé tout à l'heure le contraste qu'il y a entre les champs de Boaz et Israël du temps des juges. Quand on a lu tout à l'heure ce chapitre 2, nous avions ce sentiment dans les champs de Boaz d'une atmosphère de piété, avec le maître qui donne ses instructions, qui donne ses directives. Chacun est à sa place. Il y a de la bienséance, si on emploie le mot du Nouveau Testament. Dans le chapitre 2, nous voyons le maître qui préside aussi à sa table, avec Ruth, avec les jeunes gens, avec les jeunes filles. On travaille, on se repose. Le maître est respecté. Le maître est obéi. Et le maître voit les besoins. Il s'occupe des pauvres. Et quand le maître avertit, ne va pas glaner dans un autre champ, eh bien, ces conseils sont écoutés. Dans l'Assemblée, si nous faisons une comparaison d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a une atmosphère de piété? Est-ce que quand le maître donne des instructions et ses directives, d'abord, est-ce que nous les entendons? Est-ce que nous nous enquérons de ces instructions, de ces directives? Est-ce que chacun est à sa place dans l'Assemblée? Est-ce que les frères sont à leur place? Est-ce que les sœurs sont à leur place? Est-ce que les enfants sont à leur place? Est-ce qu'il y a de la bienséance? Des frères âgés, des frères plus jeunes, encore plus jeunes. Est-ce que les enfants sont obéissants? Est-ce que dans l'Assemblée, on travaille pour Dieu? Est-ce qu'on travaille pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a du zèle? Est-ce qu'il y a du zèle pour l'Évangile? Est-ce qu'il y a du zèle pour l'édification? Est-ce que le maître est respecté? Est-ce que le maître... C'est Christ au milieu de l'Assemblée. Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il préside à sa table? Et par sa parole, la parole de Christ, quand il avertit, est-ce que ses conseils sont écoutés? Et nous comprenons bien que le livre de Ruth, après le livre des juges, est bien opportun et bien à sa place. Le livre des juges, chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Il n'y avait pas de roi en Israël. Et Dieu nous montre dans le livre de Ruth, justement, ce que sont les champs de Boaz, quand le maître est respecté. Quand chacun est à sa place. Alors, quels sont les dons de Boaz à Ruth. Alors la première des choses, en pensant à ce matin, il lui fait grâce. Boaz est un maître qui fait grâce. La deuxième chose qu'il donne à Ruth, c'est un lieu pour travailler. Et il nous donne aussi un lieu pour travailler. Pour les évangélistes, c'est le monde entier. Mais quant à l'Assemblée, il nous invite à y travailler pour qu'il y ait de l'édification, pour qu'il y ait de la croissance spirituelle, pour qu'il y ait la crainte de son nom, pour qu'il y ait de la consolation. Voilà les dons de Boaz à Ruth. Mais ces dons de Boaz à Ruth, eh bien, nous recevons les mêmes dons. Et ce qu'il y a de remarquable aussi, vis-à-vis de Ruth, il la nourrit, il la rassasie, il est proche d'elle, il veille sur elle, et il la protège. Est-ce que nous ne pouvons pas dire la même chose de Christ ? Il nous a fait grâce, il nous donne un lieu pour travailler, l'assemblée, il nous nourrit par les dons. Et si nous profitons des dons qu'il nous accorde, qu'il a accordés à son assemblée, eh bien il va nous rassasier. Ne veille-t-il pas sur nous ? Est-ce qu'il est proche de nous ? Le Seigneur est proche. Nous disons ça sans doute tous les jours, le Seigneur est proche. Il veille sur nous, il nous protège. Ce sont les côtés heureux et positifs pour nous. La grâce, le lieu pour travailler, il nous invite à sa table, il nous nourrit, il rassasie, il est proche, il veille, il protège. Mais est-ce qu'il est ce maître qui préside à sa table ? Est-ce que nous travaillons pour lui ? La semaine passée, qu'est-ce que nous avons fait pour lui ? Est-ce qu'il est respecté ? Comment respecter le maître ? En mettant en pratique ses paroles, les paroles de Christ. Tu as gardé mes paroles. Voilà ce que le Seigneur, le Saint et le Véritable dit à Philadelphie. Tu as gardé mes paroles. Pas dans la tête, c'est en pratique. Et quand il nous avertit dans sa parole, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas ailleurs. Est-ce que ces conseils sont à écouter ? Nous avons vu un peu quelques caractères de Boaz. Nous avons vu quelques caractères des chants de Boaz. Pourrions voir un petit peu les caractères de Ruth. De Ruth, la glaneuse. Et Ruth nous parle aussi de la croissance spirituelle. Comment faire des progrès spirituels ? Et Ruth est présentée avec insistance comme quelqu'un qui glane, comme une glaneuse. Elle désire glaner, elle prend l'initiative. Et nous voyons que Naomi ne la pousse pas. Et elle a une énergie personnelle tout à fait remarquable. Et donc, nous pouvons découvrir dans ce chapitre 2 le secret de la croissance spirituelle. Comment faire des progrès spirituels? Et c'est sans doute un besoin actuel dans l'assemblée, dans les assemblées, pour les jeunes comme les moins jeunes comme nous, bien sûr. C'est comment faire des progrès spirituels. Est-ce que nous avons le désir de faire des progrès spirituels? Et pourrons voir éventuellement dans le Nouveau Testament, il y a des passages aussi parallèles qui nous parlent de la croissance spirituelle. Et un premier caractère de Ruth, nous le voyons au verset 7. Elle nous a dit « Permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes après les moissonneurs. » Permettez. Humilité et soumission. Nous voyons que Ruth agit d'une manière respectueuse. Elle n'est pas indépendante. Elle, face à plus expérimenté qu'elle et plus âgée qu'elle, et elle n'est pas affectée par une volonté propre qui serait indomptée. Permettez que je glane. Que je glane et que je ramasse entre les gerbes après les moissonneurs. Et nous voyons que c'est un des caractères que devraient porter ceux qui sont nouvellement convertis, les plus jeunes. Et nous voyons là quels peuvent être d'heureux rapports entre des jeunes et des frères plus âgés et plus expérimentés. Actuellement, un des plus grands obstacles à la croissance spirituelle, c'est faire le contraire. C'est le manque d'humilité, c'est le manque de soumission. Et au verset 7, dans la deuxième partie, il nous est dit « Elle est venue et est demeurée depuis le matin jusqu'à cette heure » ce qu'elle a été assise dans la maison est peu de choses. Humilité, soumission à plus âgés, à plus expérimentés et diligence. Elle se lève tôt et elle va travailler toute la journée. Et elle s'est assise dans la maison, mais c'est peu de choses. Le danger, en ce qui nous concerne dans la vie spirituelle, en particulier dans l'étude de la parole de Dieu, c'est plutôt la nonchalance. Nous avons tous été beaucoup plus jeunes, et qui peut dire qu'il n'a jamais été nonchalant? Mais pour une croissance spirituelle heureuse, et en particulier dans l'étude de la parole de Dieu, eh bien, il faut une discipline personnelle qui est nécessaire et avoir de la constance, de l'intérêt pour les choses de Dieu. Est-ce que nous étudions la parole de Dieu? Est-ce que nous la négligeons? Est-ce que nous sommes nonchalants? Ou au contraire, est-ce que nous sommes pleins de zèle et pleins d'empressement? Et glaner épi après épi les richesses de la parole de Dieu, cela devrait être la part des plus jeunes, comme notre part encore aujourd'hui à tous. Le troisième caractère, après la soumission, après l'humilité, avec la diligence, l'empressement, c'est la persévérance, une ténacité inébranlable. Et si nous lisons ce chapitre, nous voyons Ruth, jour après jour, qui est diligente. Elle désire se nourrir. Et bien sûr, nous devons faire la transposition en ce qui nous concerne. Et nous comprenons que Dieu veut nous dire quelque chose à travers l'exemple de Ruth. Il veut que dans les choses de Dieu, nous manifestions aussi de l'humilité. C'est-à-dire, Dieu a dit, et bien voilà, nous nous soumettons à ce que Dieu a dit. Hein, nous ne discutons pas ce que Dieu dit. Et c'est cela la vraie humilité et la vraie soumission aux enseignements de la parole de Dieu. Et faisons-le avec diligence, faisons-le avec zèle, jour après jour. Glanons un épi et un autre épi dans la parole de Dieu. Faisons comme les Béréens qui examinaient tous les jours ce qui était dans les Écritures. Au verset 17, nous voyons encore un autre caractère de Ruth. Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha d'orge. Glaner l'orge et le froment, et ensuite il fallait le battre. Et cela nous parle de la méditation sur la parole de Dieu. Est-ce que dans la journée ou dans la nuit, quand nous sommes réveillés, est-ce que nous avons à cœur de repasser dans notre esprit et dans nos cœurs ce que nous enseigne la parole de Dieu ? La méditation, c'est quelque chose de très important. La parole de Dieu ne doit pas meubler uniquement notre intelligence, notre intellect. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour que nous puissions lui obéir. Il faut qu'elle pénètre dans notre être intérieur, qu'elle y fasse son travail par l'Esprit de Dieu. S'il y a des choses à reprendre en nous, eh bien, il faut que nous réglions notre marche à cet enseignement de la parole de Dieu. Et on voit que Ruth bâtit ce qu'elle avait glané. C'est-à-dire, c'est battre le blé, battre l'orge, c'était enlever la paille. Ce qu'il y avait d'inutile, de ce qui n'avait pas beaucoup d'importance. Et au fond, elle cherchait le grain. Elle cherchait le grain et elle mettait la paille de côté. Alors, quelquefois, il y a des frères et nous pouvons dire des choses qui, peut-être, qui vont au-delà de ce que nous dit la parole de Dieu. Et il y a des expressions peut-être maladroites. Il y a peut-être aussi la façon dont nous exprimons les choses de Dieu qui peuvent être pas si heureuses que ça. Le conseil que nous donne Dieu dans sa parole, c'est la paille. Dans ce que nous entendons de nos frères, cherchons le grain, cherchons ce qui est bon, et ne nous occupons pas de ce qui est mauvais, qui est inutile dans ces discours que nous pourrions dans nos exposés. Et chez les jeunes, souvent l'esprit est vif. On va souligner facilement, ouais, ça c'était pas bien dit. Non, la parole de Dieu nous dit cherchez le grain. Hein, ce que nous entendons, il faut le battre. chercher le grain et écarter la paille. Et ainsi manifestons de la persévérance dans les choses de Dieu. Juste pour compléter ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament quant à la croissance spirituelle, dans la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 2, 1 Pierre 2, verset 2, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par lui. C'est l'application de ce que nous avons lu dans le chapitre 2 du livre de Ruth. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons croître. Désirer ardemment. Est-ce que nous avons ce désir? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 1er, au milieu, avançons vers l'état d'homme fait. Et dans le chapitre 5, les versets précédents, nous sommes exhortés à ne pas rester comme des petits-enfants. Et c'est uniquement dans la lecture de la parole de Dieu que, avec une méditation de ce qu'elle nous enseigne, que nous pouvons croître vers l'état d'homme fait. Et alors, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est des versets bien sûr très connus, quel est le but de la croissance? Quel est le but des progrès spirituels? Éphésiens 4, verset 15, mais que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Le but de la croissance, c'est Christ. Le but de la croissance, c'est de croître jusqu'à lui. Et nous voyons encore dans la première épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset 15, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et lui dit « Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. » Les progrès spirituels passe par la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Un épi et un autre épi. Glaner. Encore dans la première épître de Jean, chapitre 3, à la fin du verset 2, nous lui serons, quand il sera manifesté, nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. La croissance spirituelle, les progrès spirituels, c'est le but ultime, c'est nous lui serons semblables. Bien sûr, ça se passera quand il viendra, mais l'enseignement que nous trouvons dans le Nouveau Testament, nous devons tendre vers ce but déjà. Et encore un dernier verset dans les Proverbes, au chapitre 4, Ce sont des versets qui sont très connus. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes, mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Qu'en est-il de notre sentier ? Est-ce que notre sentier est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi ? Alors, on a posé dans il y a longtemps qu'est-ce que la croissance ? La vraie croissance. La croissance, c'est vivre près du Seigneur Jésus et apprendre à ses côtés et lui et son œuvre. Un homme fait, un homme adulte, un homme parfait, comme il est dit, est un homme qui est parvenu en Christ à trouver son repos. Et trouver aussi en lui sa pleine suffisance. Au fond, Christ est-il suffisant pour nos âmes ou bien cherchons-nous autre chose ? Est-ce que nous avons trouvé le repos de nos âmes en Christ ? Est-ce qu'il est pleinement suffisant ? Est-ce que Christ a toujours cette puissance d'attraction pour nos âmes ? Est-ce que Christ, vraiment, nous avons ce désir de lui ressembler, d'être proche de lui, de le connaître mieux ? Eh bien, qu'en est-il de nos années passées ? Est-ce que ce sont des années perdues ou en y réfléchissant bien, est-ce que ce sont des années que nous avons gagnées dans la croissance de la connaissance de Christ ?
L'apôtre Pierre pouvait dire dans sa deuxième épître, au chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et sa dernière parole de l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, verset 18, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons lu 1 Pierre 2, c'est un désir ardent de connaître cette grâce et de connaître le Seigneur Jésus-Christ pour croître jusqu'à lui,